Et là, ben, on accueille nos deux chroniqueuses, Aya Jennifer Ando. Bonjour, Aya. Et
Bonjour.
Puis, on aura aussi Anaïs Sabourin. Alors, voilà, bonjour, toi.
Bonjour.
Alors, c'est ça. Chacune, ben, vous allez parler, bien sûr, de sujets bien différents. On commence avec quelque chose de léger. Alors, ben, en apparence, à tout de moins, parce que c'est peut-être pas si simple que ça, c'est, bon, on parle, évidemment, de la chevelure des personnes noires.
Oui, on les appelle plutôt des cheveux afro ou des cheveux crépus. Et je vais le dire, ils sont pas tous pareils. Le toucher est différent, l'apparence est différente et la texture aussi est différente. Avec ces caractéristiques, ils peuvent appartenir à différents types. Et on va voir les types aussi. Non, je sais pas, Chantal, est-ce que toi, tu connais tous les types de cheveux qu'il y a, juste pas les cheveux noirs?
C'est sûr que je me suis pas arrêtée à la chose, là. C'est vraiment. Et puis, je peux dire que, bon, chez les personnes noires, je sais qu'on aime le changement, on aime l'originalité, la diversité. Bon, alors, peut-être que oui, ça, c'est, je n'en doute pas qu'il y a des différences peut-être dans la chevelure. Alors, et puis, bon, ça semble, évidemment, tout l'entretien, tout ça. Mm-hmm. Mais tu vas tout nous raconter ça.
Oui, oui. Donc, en ce moment, il faut savoir qu'il y a comme 4 types de cheveux. Et dans ces types de cheveux-là, il y a des sous-groupes de cheveux. Donc, le seul type de cheveux qui n'a pas de sous-groupe, c'est le type de cheveux 1. Donc, c'est les cheveux raides. Donc, ces cheveux-là, la plupart des personnes caucasienne, long. Donc, oui. C'est juste genre des cheveux lisses. Donc,
OK. Ça, mais puis voir. Encore là, j'imagine qu'il y a différents types. Bien sûr, on a, je pense, un A, un B.
Non, absolument
pas. Pas du tout,
lui,
pas,
il n'y a pas de sous-type.
Il
n'y
a pas de sous-catégorie. Ah, d'accord.
Sinon, le type 2, lui, il a trois trois sous-groupes. Donc, okay. Les cheveux ondulés. Donc, tu peux avoir le 2A. Donc, c'est les cheveux... Le cheveu le moins ondulé, et après jusqu'au 2C où tu as le cheveu plus un peu plus ondulé, puis vraiment l'autre qui est avec.
Ouais, ça c'est pour les gens évidemment caucasiens, là. Bon,
oui,
c'est
aussi,
à dire, bon.
Aussi.
Et quand on arrive chez les personnes noires, là on est rendu où?
Au type 4.
Ah, OK.
Donc le type 3, c'est les cheveux bouclés, donc du type 4. Du type 3A au type 3C. Sinon, le type 4, c'est les cheveux crépus, donc du type 4A au type 4C. Et on y vient vraiment sur ce type de cheveux-là. Donc, au fait, ce type de cheveux-là, il représente les cheveux les plus... des boucles plus serrées, au moins serrées un petit peu. Et c'est des cheveux que souvent, on a plus... on n'a pas vraiment la facilité à les entretenir parce que le sébum, il n'arrive pas à glisser sur tous les cheveux. Donc, ça provoque des cassures et il faut vraiment beaucoup d'entretien pour cela.
Ah, c'est pour ça, parce que c'est pour ça qu'on met tant d'énergie là, avec différents produits, parce que sinon, le cheveu deviendrait très cassant.
Oui, absolument.
Ah,
donc, le type
ouais.
4A, ses caractéristiques sont des boucles bien définies en forme de S. Ce type de cheveux a également deux textures. Donc, il peut être un petit peu fin ou soit il peut être un petit peu plus élastique. Sinon, il subit facilement des cassures, comme je t'ai dit, à cause du sébum. Et le type 4, il retient un peu plus l'hydratation que les autres types de cheveux. Donc, lui, si tu mets des produits, ben, ça va rester pour un bon moment. Tandis que le type 4, lui, il a des cheveux souvent élastiques, mais aussi quand tu laves tes cheveux après un shampoing, ben, tu peux avoir un skin scratch. Donc, c'est comme un rétrécissement de cheveux.
Ah bon?
Oui, ce skin scratch-là, on l'a beaucoup. Moi, par exemple, je l'ai. C'est comme, ça rétrécit mes cheveux à peu près à 70% de ma longueur. Donc, je peux avoir des cheveux qui sont comme touffus, mais quand tu les étires, ils sont plus longs qu'ils doivent... Ils doivent l'être.
Ah,
donc,
d'accord.
OK,
mais à la fin, on dit que, bon, c'est ça, le cheveu de type 4, bon, a l'air épais, mais c'est ça, il n'est pas nécessairement épais.
Non, c'est vrai. C'est quand on les met sur... On les attrape souvent, qu'ils sont plus épais. Sinon, souvent, quand tu prends une seule mèche, c'est vraiment fin. Là. C'est tout petit. C'est pas gros, ces affaires-là. C'est juste quand ils sont ensemble.
Que ça fait, ouais,
ça
que ça
fait l'effet
épais. Je comprends. Ouais.
Du truc.
Alors, c'est ça. Donc, des types de cheveux qui se divisent en différentes catégories. Alors, ben, on va continuer un peu après la pause, hein,
oui.
Aya, parce que c'est vraiment fort intéressant. Alors, à tout de suite. Et de retour avec Aya Jennifer Ando, on parlait de chevelure, la chevelure des personnes noires. Alors, c'est un sujet quand même intéressant et méconnu, en fait. Tu nous as parlé de différents types de cheveux. Oui. Ça, vraiment, j'étais pas du tout au courant, là. Selon, il y a des catégories, là, pour les Caucasiens, on parle de 1, c'est le chiffre.
Le type 2 aussi.
Le type 1, le type 2 et tout. Et puis, pour les personnes noires, c'est le type 4, voilà. Et puis bon, tout ça, évidemment, ça veut dire aussi différents types de coiffures.
Oui, absolument.
C'est notre identité, hein, les cheveux. Et puis je pense que selon l'endroit, selon l'endroit où vous vivez, il y a des stéréotypes, hein, il y a des modes aussi.
Oui, on suit beaucoup la mode. Puis il faut savoir que qu'est-ce qu'on aime avec ce type de cheveux-là, c'est qu'on peut faire vraiment toute coiffure et on peut genre temporairement comme lisser nos cheveux pour qu'ils partent du type 4 au type 1. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Puis, puisqu'on a une chevelure qui se casse facilement, mais on est obligé de faire des coiffures protectrices, donc des braids. Toujours, nos cheveux sont en bas, on ne les laisse pas trop...
À l'air libre. Ça veut dire que donc, on peut se... C'est ça, on les dissimule un peu, les vrais cheveux, là. On les dissimule
beaucoup. Souvent, il y a du monde qui vont porter des perruques. Ça aussi, c'est bien, là. C'est comme toute personne cherche sa coiffure protectrice en même temps. Mais moi, par exemple, j'ai comme une anecdote pourquoi souvent je préfère laisser mes cheveux en bas. Parce que j'ai une fois laissé mes cheveux en afro pour aller à l'école. Puis je suis une personne qui s'asseyait vraiment...
Toujours
en avant de la classe. Et là, j'ai caché la vue à plusieurs personnes.
Donc, c'était un peu gênant, c'est ça?
Oui,
donc,
c'est ça.
Mais bon, mais c'est vrai qu'on a moins tendance, mais il y a eu une mode aussi de porter les cheveux naturels. En fait, quand tu dis en bas, c'est de porter ses cheveux naturels.
Oui, porter ses cheveux naturels, mais ils sont tressés, ils sont vraiment comme... plat, tu les vois pas. Souvent, c'est comme ça. Il y a d'autres personnes. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous parler aussi du fait pourquoi les personnes ne veulent pas porter vraiment souvent leurs cheveux naturels. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui en ont honte. Ça arrive là, que le monde, il veut juste... ils veulent pas qu'on voie ces cheveux-là. Souvent, s'il y a des personnes qui touchent, c'est culturel.
Ouais,
il y a plein de choses
dedans. Puis des fois, je sais que vous portez un regard aussi sur les autres, c'est-à-dire selon la manière de porter ses cheveux.
Oui,
hein,
oui, absolument.
C'est comme n'importe quoi. C'est comme les jeunes avec leur habillement, au fond. Mais vous, c'est votre chevelure.
C'est notre chevelure. Oui.
Alors, il y a ça qui... et puis bon, ça, comme tu disais, ça prend des produits pour hydrater. Bien sûr, parce que finalement, à cause du fait que c'est frisé,
oui.
Le
sébum,
qui nourrit le cheveu, finalement, n'arrive pas à
glisser le long de la cheveure.
Ouais, c'est ça. Alors, ça fait des cheveux plus cassants.
Oui.
Donc, alors, c'est ça. Puis, évidemment, on parlera de toutes ces coiffures, là, parfois très originales, mais finalement, qui ont un coût. Hein, ça coûte assez cher.
Ça coûte vraiment
cher. Et puis, ça prend du temps aussi. Hein, c'est long. Alors, on va en reparler. Là, on va parler avec Anaïs. Mm-hmm. On parle de coût, tiens.
Oui.
On fait un lien avec le coût du handicap, parce que c'est... Et là aussi, ça coûte quelque chose, finalement.
Oui,
on s'en sort pas.
Ça coûte de l'argent, oui, en fait. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'argent. On le sait, au Québec, c'est un sujet qui est assez tabou, c'est un sujet qui est complexe, duquel on parle pas beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de revêtir mon veston rose, puis mes Converse, puis d'arriver en studio, puis de me dire, je vais vous parler d'argent. En fait, je veux vous parler du coût du handicap. Mais c'est quoi au juste? Je veux en premier vous expliquer c'est quoi pour moi. En fait, pour moi, c'est toutes les dépenses qui viennent vraiment du fait qu'on a un handicap. C'est tout ce qui en découle. Donc, c'est toutes les choses que les personnes comme Jennifer ou Chantal n'ont pas besoin de se procurer parce qu'elles n'ont pas de handicap personnellement. Donc, j'ai envie de vous donner des petits exemples et des petits chiffres pour vous permettre de mieux comprendre c'est quoi tout ça. Donc, parce que oui, surprise, il y en a beaucoup de dépenses et ça chiffre très haut. Donc, on peut commencer par un exemple qui est assez simple. L'exemple du permis de conduire et du fait de conduire, qui est probablement l'exemple qui coûte le plus cher. Parce que pour moi, conduire, ça m'a coûté extrêmement cher. En fait, les équipements dans ma voiture coûtent 6 000 $.
Oh, OK. Alors là, vraiment, parce qu'il faut...
le prix du permis.
Hein? c'est
six ça? Six fois le coût du permis.
Là. Ah oui, exactement. Parce que ça prend il faut adapter la voiture.
Oui, ça prend des équipements spécialisés qui sont certifiés, qui sont légaux avec la SAAQ. Donc, il faut vraiment tout s'assurer de ça. Moi, ces deux équipements-là, c'est une commande qui est aux mains et un treuil à l'arrière de ma voiture pour me permettre d'embarquer mon fauteuil sans me blesser. Donc, c'est vraiment pour éviter de me blesser aux épaules parce que ça peut être difficile à la longue. Mais le 6 000 $, en fait, il exclut le permis de conduire. Parce que le permis de conduire aussi a un coût supplémentaire. Parce que la majorité des personnes vont payer, comme tu l'as dit, oui. Jennifer, 1 000 $ oui. environ. Moi, ça m'a coûté environ 4 000 $ faire mes cours de conduite. Oui, on voit ton visage en ce moment. Donc oui, ça m'a coûté environ 4 000 $ parce que les cours spécialisés sont plus chers. Ça m'a pris des rendez-vous en ergothérapie, des suivis au privé, au public, des déplacements. Donc, ça chiffre très haut et très rapidement. Donc, faites le calcul rapidement. Ça a coûté, j'y vais avec un chiffre quand même conservateur, là, 10 000 $, mais je pense que c'est un peu plus que ça que ça m'a coûté de faire mon permis en général. Mais tu sais, on parle d'une dépense comme le permis de conduire qui est, selon moi, pas nécessairement un besoin essentiel. Mais on parle de besoins essentiels aussi dans certains cas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une situation qui m'a été partagée personnellement. En fait, je connais une jeune femme qui est à l'aube de sa majorité, qui, elle, est en fauteuil roulant, qui est lourdement handicapée. Puis, sa mère a appris récemment que parce qu'elle avait fait des placements pour sa fille, pour lui permettre d'y assurer un bel avenir, en fait, elle n'avait pas le droit aux subventions.
Ah bon, dis donc, ça vaut la peine hein, de mettre de l'argent de côté pour ça?
Alors, mais en fait, cette personne-là n'aura pas le droit au revenu minimum garanti qui est la solidarité sociale parce qu'elle a des placements qui sont trop élevés selon le gouvernement et n'aura pas le droit à tout ce qui en découle. Donc, certains soins de santé gratuits, certains éléments gratuits comme les couches. C'est quelque chose à laquelle on pense pas parce que les couches, c'est pas tout le monde qui en utilise, on le sait, mais les gens qui en utilisent, en fait, c'est 5 couches par jour. Puis un paquet de couches, c'est 15 couches. Donc, faites le calcul rapidement, là, ça monte très vite.
Oh, effectivement, et quand c'est vraiment à notre frais, à nos frais, et puis, ben, c'est ça, vraiment, c'est un petit peu choquant là, ben, de réaliser que, oui, si on essaie de mettre de l'argent de côté pour assurer quand même un avenir intéressant, et ben là, finalement, on en revient à juste pouvoir assurer les services de base.
En fait, oui, ben moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'aux yeux du gouvernement, il faut essentiellement être pauvre
ben voilà.
pour avoir droit aux subventions.
C'est
est-ce
ça.
Qu'il faut essentiellement être pauvre puis attendre d'être complètement inapte? Parce que moi, personnellement, la raison pour laquelle j'ai pas droit aux subventions, c'est parce que je suis trop autonome.
Mm-hmm.
Donc, c'est soit que t'es trop autonome, soit que t'as trop d'argent, soit que... Donc, il y a tout le temps des problèmes au niveau de cette subvention-là, de cet argent-là auquel, théoriquement, on a droit parce que cet argent-là nous appartient et on le paye. Moi, je le paye à toutes mes payes sur mes impôts. Toi, tu le payes aussi, Chantal.
Bien sûr.
La société, c'est un coût qu'on partage. Donc, moi, je trouve ça assez ironique de considérer qu'aux yeux du gouvernement, il faut attendre d'être sous le seuil de la pauvreté pour avoir droit à ces subventions-là. Là. C'est toujours d'attendre d'être au dernier recours. Puis, je vous ai présenté des dépenses, mais il y a aussi l'adaptation du logement, le fait de trouver un logement qui est souvent plus cher, le simple fait de se déplacer, parce que moi, je peux pas prendre le métro, je peux pas prendre l'autobus régulier, je peux pas me permettre ça. Donc, je dois prendre ma voiture pour aller à Montréal, je dois me déplacer, je dois me stationner, je dois payer un stationnement, je dois trouver un stationnement. Donc, ça, c'est très, très laborieux, c'est du temps, c'est tellement beaucoup de temps, la paperasse qu'on doit toujours remplir. Puis, comme on le dit, le temps, c'est de l'argent, hein?
Fait
tout ça, c'est des rendez-vous, des moments que je peux pas prendre pour moi, que je peux pas prendre pour travailler, que je dois prendre pour, encore une fois, remplir des papiers puis essayer d'avoir de l'argent parce que souvent, ça fonctionne pas.
Ouais. Ce qui est, en fait, on sait que quand on devient handicapé, si on veut, à la suite d'un accident de voiture, bon, ben, il y a d'autres mécanismes qui entrent en ligne de compte, mais quand on est handicapé de naissance, ben là, on est un peu désavantagé, hein? C'est fou.
Oui, ben on est désavantagé, moi je le dis tout le temps, c'est comme si j'avais choisi d'être handicapé, mais en fait, j'ai jamais fait ce choix-là, mais j'ai rien de couvert, moi, ou presque, là. J'ai certains éléments couverts par la RAMQ, je suis chanceuse, mon fauteuil roulant est couvert par la RAMQ, par exemple. Donc, mais il y a certaines personnes que je connais que c'est pas le cas.
Mm-hmm.
Donc, ça dépend des situations, ça dépend des gens. Mais tu sais, le fauteuil roulant vaut 10 000 $, seulement ça. Donc, si c'est pas couvert, c'est extrêmement coûteux, c'est extrêmement cher. Donc, c'est quand même difficile là, de faire face à tout ça.
C'est ça. Puis, on parlait de la voiture, du permis de conduire, tout ça, mais il y a des évaluations aussi pour prouver hein, qu'on est apte à conduire parce que, bon, c'est pas juste d'apprendre à conduire, mais il y a d'autres documents aussi qu'on doit fournir qui entraînent aussi des coûts.
Toujours. Tu sais, un simple rapport, 75 $, 80 $, ça s'additionne à chaque fois. Puis, tu sais, certaines personnes vont se dire, ouais, il y a des subventions pour faire adapter les véhicules. Oui, mais il y a toujours un mais.
Il y a après, toujours un mais, exact.
Parce qu'il y a des énormes listes d'attente. Il y a 2 ans d'attente actuellement. J'ai appelé la semaine dernière pour moi personnellement. Puis il y a 2 ans d'attente qu'on doit faire. Et en plus, on doit se procurer un véhicule qui est presque neuf. Il y a certaines conditions à respecter. Il y a des rendez-vous à aller. Donc, c'est du temps, encore une fois. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie à mettre là-dedans. Puis je veux aussi dire que souvent, les subventions qui nous sont données, ben, elles ne sont pas suffisantes.
En plus.
Il faut toujours débourser notre poche. Tu sais, c'est une partie, c'est un 50 %, c'est un 30 %, un 15 %. Mais encore une fois, il y a des dépenses qui viennent de notre poche. Tu sais, moi, j'utilise un banc de douche que j'ai dû payer de ma poche. Parce que il y a pas cette subvention-là, parce que moi, je vis chez mes parents et dans une résidence étudiante, et il y a un des deux qui n'était pas couvert. Donc, il y a un des deux que j'ai dû payer de ma poche. Il y a toujours cette question-là de où la responsabilité gouvernementale commence et où elle s'arrête, puis on n'arrive pas à le dire, même personnellement. Ouais.
C'est sûr que c'est un problème qui est généralisé, hein, bien des toutes sortes, on pourrait citer bien d'autres exemples, mais enfin, c'est vraiment intéressant que tu nous sensibilises à ce problème-là. Oui. Parce qu'on le voit pas toujours, là.
Non, pas du tout. Puis j'aurais aimé ça être capable de vous dire avec certitude que la majorité des personnes handicapées vivent sous le seuil de la pauvreté, mais malheureusement, il n'y a pas de données à jour disponibles.
Ah, ben voilà.
Il n'y en a pas. Puis je trouve ça totalement dommage parce qu'on le sait, c'est environ 15 % de la population qui est en situation de handicap en date d'aujourd'hui, mais toutes les statistiques que j'ai pu trouver dataient de 2016. Donc, c'est pas à jour. C'est extrêmement... plus le cas, là, avec toute l'inflation et tout ce qui nous touche actuellement. Donc, pour cette raison-là, ben, la journaliste en moi ne peut pas, avec conviction, vous affirmer que les personnes en situation de handicap sont sous le seuil de la pauvreté ou en situation de précarité. Mais je pense que par expérience personnelle,
je pense qu'on
vous
peut
le dire.
S'en douter fortement.
Ouais.
Merci Anaïs et puis merci Aya. Ça a été un plaisir de vous accueillir et puis on attend vos prochaines chroniques avec impatience. Voilà, merci.
Merci.
À la semaine prochaine.